Pas d'autres témoignages ce soir? Amen. Alors on va rentrer dans la parole. Ce soir on va parler de choses qui sont importantes. On va rentrer aujourd'hui, demain après-midi, dans des tas d'esprits. Et demain soir, je vous parlerai d'un des plus gros esprits qui soit, qui peuvent beaucoup de chrétiens, c'est Mammon. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un message vraiment libérateur. Quand on commence à comprendre ce que Dieu a dit, je ne viendrai pas vous parler de quête, je viendrai vous parler de la manière dont l'ennemi nous lie l'entendement et combien nous vivons dans un monde qui est contraire à ce que dit Dieu, y compris les chrétiens. Donc c'est un message de libération pour qu'on soit libre devant Dieu et surtout pas se joug, parce que c'est un des ennemis du peuple de Dieu, des ennemis du monde tout entier. Amen. Mais on va, d'ici là, on va parler de plein d'esprits. Alors, on ne pourra pas parler de tout. Je suis désolé, mais il y a tellement de choses. À chaque délivrance, on en rencontre de nouveaux esprits. Donc, je donne des grandes lignes. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être vraiment très très sensible au Saint-Esprit. Alors, je voudrais commencer par dire, on rencontre beaucoup d'esprits animaux. Pourquoi beaucoup d'esprits animaux? Parce que les démons prennent des formes animales. Et en plus, regardez, la première forme animale qui a été donnée, c'est à Satan, c'est le serpent. Parce que avant qu'il y ait la condamnation sur lui, il ne rampait pas sur la terre. Il a été condamné par Dieu à ramper sur la terre. Il avait peut-être l'âge d'un ange. Quand il s'est présenté à Ève, certainement pas d'un serpent. C'est après qu'il a été condamné à ramper sur son ventre. D'accord? Alors donc, et nous voyons dans la parole que déjà Satan lui-même est comparé à beaucoup d'animaux. Le serpent, le Léviathan, le dragon volant. Je vous donne les Ésaïe 27:1 pour le Léviathan. Dragon volant pour Ésaïe 36, Apocalypse 12. Belzébul, le prince des mouches. Dieu lui-même a comparé des hommes à des animaux. C'est un renard. Hérode, c'est un renard. Bon, donc, mais ça veut dire que quelque part, il y a des esprits qui correspondent à ça. Bon. Psaume 91, 13 nous dit « Tu fouleras le lionceau et le dragon ». Il est évident qu'on nous parle de démons. Hein. Ésaïe 59, 5 nous parle du fait que on nous parle de sorciers qui tissent des araignées, qui couvent des œufs de basilic, des lanceurs, des aspics. Enfin, vous avez un drôle un langage qui est subodoré que dans le monde spirituel, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes animales qui sont prises par les démons. Hein. On nous parle, bon, je l'ai dit, beaucoup de serpents. Ecclésiaste 10, 11, il nous parle du serpent qui mord fondant sur l'enchantement. Ésaïe 14, 10, il nous dit que de la racine du serpent sortira un basilic. Jérémie 14, 7 nous parle d'un âne qui aspire l'air comme les serpents. Enfin, vraiment, on n'arrête pas de nous parler du monde spirituel, souvent sous une forme animale. Hein, Jésus a traité des hommes de serpents, race de vipères. Parce qu'il y avait dedans des serpents et des vipères. Si on les avait délivrés, il y aurait eu des serpents et des vipères. Et quand on fait les choses, bon, il faut savoir qu'on peut avoir toute forme animale pour les démons. On verra que pour les esprits humains aussi. Hein. Alors les corbeaux, les aigles, ça nous est dit dans le Proverbe 30-17, les vautours, des pieuvres, des carnassiers, des chiens, tout ça nous est mis, on nous en parle dans la parole. Je voudrais lire Exode 20, bon, Ézéchiel 34-5 nous parle des bêtes des champs. Je voudrais lire à ce sujet l'Exode 34, que vous ne pouvez pas comprendre si vous le... Exode 23, pardon. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses, et d'ailleurs ça va nous donner aussi, par rapport à la délivrance, compréhension pourquoi certaines délivrances doivent se faire par étapes. Alors déjà, Dieu dit, regardez quelques armes de Dieu, verset 27, « J'enverrai ma terreur devant toi, Je mettrai en déroute les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai le dos, tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Miam, 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 miam. C'est bon ça. Exode 23, 27. 23, 28. J'enverrai les frelons devant toi. Les frelons, Dieu peut utiliser les frelons. Peut utiliser les animaux. D'accord ? J'enverrai les frelons devant toi et te chasseront. Et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Héviens. Et là, Dieu dit une parole qui est très mystérieuse. Et si vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'êtres démoniaques du monde spirituel et non du monde physique, vous n'allez rien comprendre du tout. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je veux dire que, donc là on ne parle de guerre territoriale, hein, mais le Seigneur, c'est vrai à titre individuel, c'est vrai aussi dans les guerres territoriales, ça veut dire qu'on gagne des positions. Hein. Il y a quelquefois il y a des étapes de délivrance, qu'une fois qu'on a bien assis cette position, qu'on a affermi, qu'on s'est affermi sur cette position, on va être fortifié, on peut lutter contre le péché dans tous les domaines où l'ennemi avait pris le dessus. Et là, quelquefois, le Seigneur, à ce moment-là, envoie une autre vague de délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans la guerre territoriale. Il va nous faire prendre petit à petit, on gagne du terrain. D'accord? Donc, mais il parle de bêtes des champs. Alors, ce n'est pas les bêtes des champs qui sont... bon, à l'époque, les bêtes des champs, il y avait un paquet de dangereuses, on est bien d'accord. Mais il est clair qu'il faut aussi le voir dans un sens spirituel. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'esprits animaux qu'on est amené à chasser, et il est très courant qu'on doive chasser des serpents, effectivement. Ça, pratiquement dans toutes les latitudes, parce que Satan est déguisé sous forme de serpent. Mais il y a des animaux qu'on retrouve plus facilement. Par exemple, si on délivre des hindous et des choses, on va retrouver des esprits de singes, des esprits d'éléphants, de tigres, parce qu'ils ont vénéré ces bêtes, d'accord. Quand on s'occupe des Africains, on aura davantage des esprits de lions, des esprits de rhinocéros, des animaux du coin. Quand on sous nos cieux, on chassera davantage des esprits de loups, des esprits de hibou, des esprits de chouette, des tas de choses comme ça. Alors, je voudrais vous dire aussi que, bon, on verra comment ils peuvent rentrer. Hein. Où est-ce que je les ai mis ? Oui. Dans tout ce qui concerne dès que les gens, il y a eu des héritages de franc-maçonnerie, il y aura des esprits de chat, des esprits, il y a plein de choses comme ça qui rentrent, hein. Des esprits de chacal, des esprits de chat, parce que vous le voyez dans toute les choses égyptiennes, vous voyez plein d'animaux, ils sont prosternés devant, hein. Donc ils les ont attirés. Dans le fétichisme, pas rare du tout, moi je l'ai vu en Afrique, les bruits de poules, avec les viandes, j'ai vu des colombes, des gens se mettent à faire des colombes devant moi, quelquefois on voit des drôles, on a des os, hein, carrément, c'est assez impressionnant, on voit des esprits animaux, des ânes, des vaches, des trucs, ne soyez pas étonnés, on peut avoir toutes sortes d'animaux qui viennent, alors, ils peuvent rentrer. Alors, en plus, on a parlé des esprits humains qui sortaient. Il y en a beaucoup qui se déguisent en animaux et qui rentrent sous des formes animales. Alors, eux aussi prennent de préférence, comme il y a l'orgueil, ils prennent souvent des grands animaux puissants. Les buffles, les lions, les éléphants, les crocodiles. Alors ça, on en a des flopés. Donc on peut être réellement amené à sortir des animaux. Alors vous ne cassez pas la tête, vous voyez quelqu'un en train de faire ça, vous dites « esprit de poule dehors, au nom de Jésus ». Il fonctionne très bien. Un jour, je me souviendrai toujours, c'était à Dunkerque. On était dans une un symposium, mais il y avait un grand maximum de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui étaient là. Et j'étais assise à côté de Patrick Fontaine, on n'arrêtait pas de rigoler. Et puis à un moment donné, on entend dans la salle quelqu'un qui commence. Une heure après, on était toujours là. Alors quand même, les organisateurs, bon, on avait beau être vivre un peu le vin nouveau à ce moment-là, les organisateurs, ça, c'est un peu désordre, ils finissent par la mettre dehors. Alors, à ce moment-là, il y a Patrick Fontaine qui me dit, pour une fois qu'on a vu une vraie brebis, nous la mettre dehors. Mais bon, c'était des esprits animaux, ça venait pas de Dieu. Dans l'onction de Toronto, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et les gens ne discernaient pas entre des choses qui n'étaient pas du tout de Dieu et des choses qui étaient de Dieu. Dieu ne ridiculise pas les gens. Il ne les traduit pas, il ne les met pas sous une forme animale stupide, c'est Satan qui fait ça. Alors, comment ça rentre? Entre autres, vous pouvez avoir, quand vous avez été associé à un signe du zodiaque, vous avez souvent sorti l'esprit. Scorpion, bélier, regardez, on vous donne une identité animale. Vous êtes allé toucher un peu à l'astrologie chinoise. Et on vous associe, ah t'es un serpent, ah t'es un rat, t'es un lapin, ah t'es un cochon, et vous sortez. Il y a une amie qui m'a écrit le jour, qui a mis sur mon blog, elle avait dû sortir un esprit de cochon de quelqu'un. Bon, mais c'était pas parce que la personne, c'était, bon, les esprits impurs, on peut avoir des esprits de cochon, mais c'était parce que la personne avait fait des rituels autour du cochon dans sa famille, il faisait ça depuis des générations. Avec Ripaille et compagnie. Et puis l'esprit de cochon était rentré. Alors on a affaire comme ça à des. Donc il faut penser à se délier de tout ça et à sortir les esprits équivalents. On a pris des identités. Moi un jour j'ai une personne qui vient à la maison et on parle un petit peu. Et puis elle me dit, je lui dis, vous avez touché un peu à l'occultisme. Chose en... Oh non, rien du tout. J'ai juste passé un an dans un ashram. C'est un truc bouddhiste. Juste un an dans un ashram. Les gens édulcorent complètement le truc. Puis je parle un petit peu avec elle, puis je lui dis, mais, et donc tu faisais de l'astrologie chinoise? Oui, mais oui, puis j'étais un rat, me dit-elle avec une grande fierté. Mais je lui dis, mais t'es fière de ça? Bah écoute, un rat, c'est l'animal le plus intelligent, c'est reconnu, c'est rusé, c'est extrêmement actif. Il fallait chasser l'esprit de rat. Il fallait chasser l'esprit de rat. Elle avait été complètement identifiée à un animal. Satan fait tout pour nous identifier à des animaux. À travers le zodiaque. Donc il faut savoir. Alors, ils arrivent aussi par les totémisations. Les totémisations. Le totem scout, le totem, c'est une cérémonie sorcière. Un jour, moi, j'étais, je me souviens, à Pau, chez les Potentis, et je me réveille la nuit, et j'avais été tourmentée, donc j'avais beaucoup de délivrance encore à vivre, mais j'étais déjà dans le ministère, donc j'étais dans le ministère de chez eux, et il me dit... Je suis réveillée comme ça à 7h du matin et je pense pingouin, 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 pingouin. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, dans un totem, on m'avait appelé pingouin. Et ça m'avait blessé à l'époque parce que je l'ai bien tout, mais je ressemblais franchement pas à un pingouin à l'époque. Peut-être un peu aujourd'hui, mais à l'époque. À l'époque, j'étais mince comme un fil, j'étais agile, j'étais pas en train de faire ça. Non, mais enfin bon, non, je dis ça en blaguant, évidemment.
Non, mais... avec personne existante.
Et je n'avais pas compris. J'ai dit, mais pourquoi ils m'ont appelé comme ça? J'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose de profondément méchant derrière, mais je ne savais pas quoi. Et donc, je passe presque 45 ans et je me retrouve donc chez les gens et je dis, mais écoutez, j'ai reçu ce nom comme totem. Est-ce que ça a une connotation? Est-ce que ça peut avoir une signification quelconque? Ils me disent, tout de suite, ils me disent, ils avaient l'habitude de la délivrance. Ils me disent, mais Michel, bien sûr, parce que tous les animaux dans les cérémonies sorcières, ont une signification spirituelle. Ils ont des significations spirituelles. Et alors on dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Je demande au Saint-Esprit de nous éclairer. Je dis, on se met dans la prière, je dis, Seigneur, montre-moi à quoi, qu'est-ce que c'était que ça? Et à ce moment-là, je reçois le mot solitude glacée. Et en fait, il m'avait mis une malédiction de solitude glacée. Et toute ma vie avait été une solitude glacée. Alors ne croyez pas que ça soit des petites choses. Je veux dire que dans la délivrance, hein, ouais, c'est des gentilles petites traditions, c'est mignon comme tout. Le diable sait se cacher derrière les traditions pour faire des choses, pour vous lier, pour vous ligoter. Et vous pouvez être confronté à des choses. Ne sous-estimez pas le truc qu'il y a derrière. Derrière tous ces petits rituels qui ont l'air presque de trucs de gamins. C'est pas du tout des choses. Combien d'entre vous avez reçu un totem? Il va falloir les briser. D'accord? C'est une cérémonie sorcière. Ben oui, chez les scouts, chez les guides, même chez les protestants. Ils ont pris les trucs par ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je le cite souvent, on le cite souvent. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est mon peuple. Pardon? Ben, le museau, c'est un animal qui a un museau ou un homme?
Ma fille, elle a fait ça il y a 3 mois.
Ah ben, t'as plus qu'à briser. Enfin, quel est l'animal qui a un museau? Chien. Tous les canidés ont des museaux. Et ben voilà, dans les totems, il y a toujours un nom animal. Toujours. Ou d'une partie d'un animal, comme on le vient, voilà. C'est toujours une identification à un animal, c'est totalement satanique. Satan veut toujours abaisser l'homme, Dieu veut élever l'homme, puisqu'il l'a mis à son image, et Satan fait tout pour le rabaisser. Alors, comment est-ce qu'il rentre? Bon, dans le druidisme, vous pouvez avoir des esprits de cerf, de reine, selon les endroits d'où les gens viennent. Vous allez retrouver des connotations par rapport à des animaux qui sont vénérés, qui sont mis au pinacle, auxquels on compare les gens. Mais vous avez des gens qui sont... Alors comment ils rentrent? Sorcellerie, bien entendu. Dès qu'on touche à la sorcellerie, notamment quand j'entendais ces poules, ben, tout simplement les gens avaient fait du fétichisme, ils avaient amené des poules en sacrifice. Il y avait des esprits de poules qui étaient rentrés dans les personnes, hein, tout simplement. La zoophilie, beaucoup plus courante que vous ne le pensez, y compris sous nos cieux, zoophilie, c'est-à-dire acte sexuel avec un animal. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit, c'est que celui même qui convoite une femme pour la désirer déjà comme il adultère, donc c'est comme s'il avait fait comme... Il y a des gens qui ont fait des fantasmes de zoophilie, ou des gens qui voient, qui regardent des abominations sur l'internet ou à la télévision de zoophilie, ça suffit pour faire entrer des... Job disait, je ne mettrai rien d'abominable devant les yeux. Aujourd'hui, c'est difficile de regarder un film, puis tout d'un coup, c'est l'heure d'un gentil petit film, puis tout d'un coup, splaf, vous avez une image qui arrive, et le gamin voit ça. Ça a l'air d'un gentil petit film bien familial, bien mignon, tranquille, cool, etc. Vous voyez le thème, ça a l'air gentil comme tout. Et puis tout d'un coup, vous avez une image abominable qui arrive en plein milieu. Et les enfants vont être liés par ça. Et puis alors, ne parlons pas de tout ce que les... Bon, on va en parler alors. Donc j'ai parlé de toute l'astrologie, les identifications à des animaux, mais il y a aussi, bon, si vous voulez, Marie, vous appelez votre femme ma petite colombe, ne vous inquiétez pas, elle n'aura pas un esprit de colombe. Ma petite puce, mon petit chéri, mon petit... bon, Dieu sait qu'on a des petits mots comme ça, sympa, gentil. C'est fait avec amour, d'accord? Mais vous avez des parents qui ont traité leurs enfants, c'est à partir du moment où il y a un esprit méchant derrière, qui ont souvent traité leurs enfants. C'est qu'un âne, quelquefois ça peut être dit. Je voudrais vous signaler qu'il y a des gens qui ont des langues sorcières. Ce sont des héritages de sorcellerie, de blasphème, de malédiction. Et chaque fois qu'ils disent un mot, c'est comme s'ils envoyaient une flèche. Et ça se traduit. C'est-à-dire que une personne peut dire comme ça, oh, ma fille, t'es vraiment un âne, hein. Ça ne va pas le lier, parce que Il n'y en a pas du tout. Il n'y avait pas du tout quelque chose de méchant. Mais si cette personne a une langue sorcière, il peut se passer des choses très, très puissantes. Je me souviens d'une amie, sa mère n'est pas sorcière, mais elle a un héritage de sorcellerie. Elle a la langue sorcière. Alors, nous, on le voit quand on délivre les gens, parce que la langue sort comme ça, comme je l'ai expliqué. Et c'est là, on voit vraiment s'appliquer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ou une langue douce peut briser des os. J'ai déjà cité ça. Mais alors, chaque fois que ça va, elle disait par exemple, « Ah ben, je pars en voyage. » Et la mère dit, « Fais très attention sur la route. » Il suffit qu'elle dise ça, il y avait un accident derrière. Ou elle appelait pour dire « Je t'appelle pour te dire, surtout t'es pas malade, hein, tu sais qu'il fait froid en ce moment. » C'est sûr que la maladie tombe dessus. Elle avait une langue sorcière très très puissante. Donc, ça dépend dans quel esprit sont dites les choses. Mais quand nous, on s'associe, qu'on accepte ces identités, il peut y avoir des choses qui se passent. D'accord ? Alors, l'idolâtrie, bien entendu, hein, on a vu en Romains 1, que les gens pouvaient idolâtrer les animaux, donc nous, les gens préfèrent idolâtrer les petites icônes et des choses comme ça. Vous avez jamais vu encore, ça je l'ai vu, les esprits de Madone, prier pour les gens, ben.
Oui.
Quand vous voyez ça, vous avez vraiment compris, hein. C'est trop. Mais vous pouvez avoir vous avez affaire à des personnes qui sont dans des pays où on a sacralisé les animaux, hein. Alors les Égyptiens, je veux dire, s'il y a des héritages, il y a les ibis, il y a les chats, il y a les chacals, il y a plein de choses comme ça, les faucons, les trucs, etc. Les chevals, dans les pays arabes, il y a le cheval, il y a plein d'animaux, le faucon aussi, des trucs comme ça. Donc on peut retrouver ces esprits. Bien sûr, dans les pays asiatiques, on va retrouver les vaches, on va retrouver les singes, on va retrouver les tigres, qui sont littéralement vénérés, donc on leur trouve un culte. Donc ça ouvre la porte à des esprits. Dans les pays indiens, quelquefois on a des gens qui ont des ascendants indiens. Alors on va retrouver les esprits de caribou, entre de tout. Vous savez. Surtout, soyez prêts, ne soyez pas incrédules. Quand vous allez faire des délivrances, vous allez vous trouver devant des trucs. On ne peut pas tout décrire. Chaque fois, on est surpris. Chaque fois, on en découvre des nouveaux. Quelquefois on reçoit des noms, on se dit mais ça sort d'où ça? Les malédictions, je l'ai dit, hein, quand c'est dit avec beaucoup de méchanceté. Des enfants qui ont été traités comme des animaux. Des enfants qui ont été mis dans des niches. Les Illuminati enferment dans des cages avec des singes, dans des niches avec des chats, dans des niches de chiens, des choses comme ça, c'est terrible. Alors là, il s'agit de choses extrêmement graves et très lourdes. Les jeux vidéo, maintenant, il y en a qui sont pas clairs du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Les tatouages. Piercing. Sont autant d'entrées. Les gens qui ont fait du yoga, ils ont appelé le Kundalini, je pense qu'on en reparlera demain, qui est soi-disant une énergie vitale qu'on va recevoir en ouvrant les 7 chakras. C'est des beaux serpents qui font rentrer, après les gens ont des maux de dos horribles quand on les sort. Il faut voir les souffrances qu'ils ont. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler demain. Peut-être avec un peu de chance demain, on arrivera à mettre un petit peu de temps de questions-réponses. On verra ça. Les arts martiaux, vous avez très souvent trouvé des trucs de dragons. Et puis tous ces jeunes maintenant qui se promènent avec des dragons partout, qui s'en tatouent, qui en mettent partout, vous pouvez trouver des esprits de dragons. Des serpents de tous les côtés. Ça peut leur donner des esprits de serpents. Alors, ils en remettent comme sur tous les vêtements, ils en ont partout, ils en collent sur leur mur de leur chambre, ils contemplent ça sans arrêt. Attendez, ça peut vraiment mettre des esprits terribles. Hein. Donc voilà, je voulais juste déjà passer là-dessus. Bon, maintenant on va passer à un autre genre, parce que alors là, il s'agit de Bon, déjà là, on peut avoir des belles délivrances. Je voudrais vous parler des liens d'âme, des liens d'emprise, des liens fusionnels. Et là, je peux vous dire que beaucoup de gens sont concernés. Beaucoup. Et qu'il peut y avoir même des cas d'une gravité qui sont... Alors là, c'était impossible de vous l'expliquer avant qu'on ait parlé des esprits humains. Parce que là, on est obligé de sortir. Juste là, dans ce dont je voulais parler, on sort les esprits animaux. Mais là, on va sortir les esprits humains. D'accord ? Il y a des liens d'âme dans la Bible qui sont parfaitement bibliques. Par exemple, il est dit en acte 4 que tous les chrétiens ne faisaient qu'une seule âme. C'est un beau lien d'âme. Mais il était soudé par l'amour. Et c'était l'amour, et ce n'est pas un mauvais lien d'âme, ça. Une mère qui aime son enfant, qui le chérit, c'est pas un mauvais lien d'âme. Bon, s'il y a 30 ans, il est toujours sur ses genoux et qui tête, là, il est devenu un peu malsain. Même s'il est simplement à 35 ans dans la maison, à mon avis, il est juste pas clair. Non, mais je le dis parce que je vois des cas autour de moi. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il ne trouve pas, mais en réalité, il y a des liens. Il y a des liens d'âme, il y a des liens fusionnels graves. Ils n'arrivent pas à quitter maman et réciproquement, il se trouve des tas de bonnes raisons pour ne pas le faire. Il y a des liens d'âme magnifiques. Jésus, par exemple, Jésus avec le Père. Le Père est en moi, je suis en lui. Alléluia, Jean 17. Puis il dit, j'habite en vous. Alors, on a un lien d'âme avec notre papa, Céleste. C'est un bon lien. Et on ne fait qu'un seul esprit avec le Saint-Esprit. C'est un très bon lien. Alléluia. Donc, on a un cas aussi dans la Bible, qui a été d'ailleurs déformé immédiatement par les catholiques et par les homosexuels, c'est Jonathan et David lièrent leur âme. Mais Jonathan a lâché son légitimité de fils de roi parce qu'il reconnaissait en David le loin de Dieu, il y a laissé sa vie. Donc c'était un beau lien d'âme, et c'était un lien d'âme, point final. Ils ont vraiment, c'était une alliance profonde d'amitié où l'un s'est sacrifié pour l'autre. Et c'était magnifique. Alléluia. Et dire qu'on a trouvé le moyen de faire de ça des cochonneries pour légitimer l'homosexualité. C'est épouvantable. Hein. J'ai pas parlé de l'homosexualité, mais je vais en profiter pour. Je sais pas si j'en ai parlé.
Non.
Sachez que derrière l'homosexualité, il y a des esprits d'une puissance telle que précisément ça déforme jusqu'au corps, puisque ça peut rendre des hommes imberbes, ça peut changer les voix, etc. Et j'aurais longtemps ignoré ça. Laurence, hier matin, pour ceux qui étaient là, ont montré que si ce n'était pas coupé tout de suite, parce que quelquefois ils les ont ramassés, ce sont des malédictions hein, qui arrivent. Il y a eu des choses pas claires qui ont été faites dans les... avant, alors je ne parle pas évidemment des parents qui voulaient une petite fille qui habille leur garçon en fille, ceux qui ont des prénoms à double tranchant parce que c'est il peut être aussi bien homme que femme parce que les parents voulaient un garçon, etc. Ça peut créer une homosexualité hein, déjà ça. Le simple fait parce qu'il y a une rébellion profonde contre Dieu, on voulait un garçon et puis il est tombé une fille, alors on va lui donner un prénom pas très clair, on va l'habiller en garçon manqué pendant très longtemps, on va le traiter en garçon. Peut traiter, faire des homosexuels hein, de ce côté. Mais il y a des esprits très puissants derrière. Très, très, très puissants. Et ces esprits sont tellement puissants. Un jour, j'ai un homme qui veut, j'ai déjà parlé de lui d'ailleurs, mais il m'a raconté deux choses et il m'a raconté aussi ça. Il était donc en train d'être initié pour devenir grand prêtre vaudou. Et il était arrivé à un certain stade, et pour arriver au stade suivant, on lui a dit, tu ne peux pas atteindre le stade suivant si tu ne commets pas l'acte homosexuel pour que tu puisses attraper, Elise, en Haïti, il appelle le démon au goût. C'est comme ça qu'il l'appelait localement. Mais en réalité, c'est un démon très, très, très puissant. Qui rentre et qui tient les gens, qui les détruit leur vie. Alors aujourd'hui, quand je vois les lobbies homosexuels et que on légifère pour eux, alors qu'on les envoie dans des conditions de vie. Vous savez, quand j'avais environ 30 ans, j'ai monté une entreprise de distribution d'estampes originales. Et au départ, j'avais deux frères dans la société. Avec moi, ils étaient tous les deux homosexuels. Oh, j'avais rien à faire, j'avais aucune prévention à l'époque. Moi, j'étais une 68 art fini, donc c'était pas mon problème. Au contraire, je trouvais ça très rigolo. Mais 6 mois plus tard, j'avais 45 homosexuels autour de moi. Parce que c'était, comme on n'avait pas à les payer, mais qu'ils étaient payés à la commission sur ce qu'ils vendaient, les autres cooptaient des homosexuels. Donc j'ai vécu pendant des mois entouré d'homosexuels. Et alors qu'à l'époque, je n'étais pas chrétienne, j'avais aucune prévention, aucune. Un jour, je m'en souviendrai toujours, je vais chercher un ami à la gare, je déjeune avec lui, et quand j'arrive au fromage, je dis, je ne suis pas capable de revenir, je suis dans la cage aux folles. Mais ce n'était pas la cage aux folles d'une manière drôle, croyez-moi. Parce que c'était tous les jours des tentatives de suicide, c'était des conflits épouvantables, c'était des trucs, des angoisses. Alors dès qu'ils dépassaient l'âge de 35-40 ans, c'était la mort qui était avec eux, la peur, la mort, la peur de vieillir, etc. Et j'ai dit, ce sont des grands malades. À l'époque, je n'étais pas chrétienne. Aujourd'hui, je sais que ce sont des grands démonisés. D'accord ? Mais qui ça les détruit. Donc ceux qui légivèrent pour eux, je veux dire que Romains 1 se termine en disant, non seulement ils ne les condamnent pas, non seulement ils les soutiennent, mais ils en font autant, mais en plus ils approuvent ceux qui les font. Hein. Donc c'est dramatique. En fait, c'est dramatique, puis ça envoie des grandes malédictions sur les pays. Et quand j'étais après, quand j'étais dans le ministère, là, le Seigneur un jour m'a vraiment informé. J'arrive dans une ville et j'étais invité donc par un pasteur. C'était un homme qui m'avait me disant, je suis ancien de l'église, est-ce que vous pouvez venir? Donc on vient, je parle. Et puis il était un peu bizarre, le gars. Il était un peu bizarre. Je sentais une certaine gêne dans son truc. Parce que je lui avais dit, mais il n'y a pas de pasteur. Non, non, il n'y a pas de pasteur. Et puis on commence le culte. Et puis, ça ne m'est jamais arrivé avant, et ça m'est arrivé très rarement depuis, il y avait une telle onction pendant la louange que tout d'un coup, je reçois qu'il faut faire un appel tout de suite. Et je fais un appel, et ce gars, qui était donc le responsable qui m'invitait, s'avance. Pas proche de lui, j'ai imposé les mains, il tombe au sol, comme mort. Vous n'avez pas quoi faire. Alors on continue. C'était pourtant lui que la responsable continue. Il était au sol. Et pendant les 2 heures qui ont suivi, prédication, ministère, etc., il était toujours au sol. Il ne bougeait pas. Et de temps en temps, simplement, on entendait, on savait qu'il n'était pas tout à fait mort, parce qu'on entendait simplement des petits bruits qui sortaient de sa bouche. 2 minutes, alors on priait pour le lendemain, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Puis, ça devait être suivi d'une agape. Alors, on part, on fait l'agape. Lui, il était toujours au sol. Ça faisait déjà 3 heures qu'il était au sol. 3h30. Une fois qu'on finit le repas, il faisait 3h30. Et à ce moment-là, je me retourne et je m'aperçois qu'il était assis contre le mur, blafard, comme sortant de transe, comme complètement comme ça. Et puis, il reste collé au mur pendant un certain temps. Puis, il finit par se lever. Et il vient s'asseoir avec nous, il se met à manger avec nous, et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il me fait signe qu'il ne peut pas parler. Pas. J'en range toute la salle, etc. Il y avait déjà 5 heures qui s'étaient passées. C'était plus le moment où il était tombé par terre. Et à ce moment-là, il me fait un signe, et pour me montrer qu'il veut me parler. Alors, on se met dans un coin. Bon, il n'y avait pratiquement plus personne parce que tout le monde était parti. Et il me dit, il commence à me parler, il me dit, écoutez ma voix. Sa voix avait baissé 2 octaves. Il me dit, j'avais un esprit d'homosexualité. Et c'est parce que j'avais cette pulsion homosexuelle que je ne voulais pas être pasteur, bien que j'ai l'appel de Dieu. Donc je refusais qu'on me donne le titre de pasteur. Ça fait des années que je lutte, que je crie à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai été délivré. Amen. Et là, j'ai vraiment compris que ce qui s'était passé, c'était une délivrance gigantesque que seul Dieu pouvait faire, tellement c'était lourd. Et puis, j'arrive 6 mois plus tard en Suisse, et bon, c'était un jeune couple de pasteurs qui m'accueillait, et puis on fait une première réunion, et puis pendant le repas, qu'est-ce qui me prend? Je leur raconte cette histoire-là, et je les vois tous les deux devenir verts. Et ils me disent, c'est notre cas, nous sommes deux anciens homosexuels, on s'est mariés, mais on a toujours ces esprits, ces pulsions, et comme ça. Et alors on sort de table à ce moment-là, et je continue à parler, à raconter les détails. À ce moment-là, le mari pasteur tombe au sol, pareil, mort, près de mort. Alors, brebelote, on prie pour lui, pour qu'il soit délivré. 2 heures plus tard, elle était toujours au sol. Le problème, c'est que moi, j'avais rendez-vous avec un autre pasteur à l'aéroport de Genève, parce que je devais aller dans une autre église. Et alors, on était là, il dit, mais réveille-toi, rien à faire, impossible de le lever. Alors, sa femme a dit, bon, ben, ça, c'est moi qui vais t'amener à l'aéroport de Genève. Et elle m'a amené, et je les ai rencontrés des années plus tard en me disant, il a été libéré. Amen. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas des petites délivrances. Ce sont des esprits d'une puissance épouvantable qui déforment le corps, qui va jusqu'à déformer les voies. Mais ce sont des esprits. N'en doutez pas une seule seconde. Ce sont des démons. Dieu ne condamnerait pas l'homosexualité si les gens étaient nés comme ça. Ils peuvent avoir eu par héritage ces démons. Ça oui, on l'a bien vu dans la parole. Amen. Donc, voilà, si vous voulez, j'ai fait une digression de ce que j'avais prévu de parler, mais ce n'est pas grave parce que ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et en plus, quelquefois, le Seigneur me fait parler d'un truc parce que une personne qui est là sait qu'elle est concernée. Alors, il y a des liens d'âme douteux. Parce qu'il y a des alliances qui sont faites, qui peuvent avoir des... Par exemple, les liens entre jumeaux. Il y a quelquefois, les parents, il y a des liens fusionnels naturels qui ne sont pas toujours très sains. Si les jumeaux sont tout le temps, ils n'arrivent pas à se quitter l'un l'autre. Et je pense que ce n'est pas par hasard que nous avons dans les 12 apôtres un jumeau, mais l'autre n'est pas là. Thomas le jumeau. Ok, donc Dieu a fait quand même chaque être unique, et quelquefois il y a des liens entre les jumeaux qui sont fusionnels. Moi j'ai vu un jumeau deux frères jumeaux, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, qui s'est suicidé alors que tout le monde s'occupait de l'autre qui avait une dépression nerveuse. Et quand tout le monde a été affolé parce que le premier s'était suicidé, le deuxième s'est suicidé. Parce que les liens entre les deux étaient terribles. Alors ça, c'est des liens fusionnels qui sont malsains. Il y a des liens qui ont été faits par des vœux à Dieu complètement idiots. Vous savez que la parole de Dieu dit de ne pas faire des vœux à la légère. Hein. Nombre 33, Ecclésias 5, 3, 4. Tout ça, ce sont des liens par lesquels on lit notre bouche. Et les proverbes aussi nous disent, si jamais tu t'es lié à quelqu'un, mais va vite et délie-toi. Attention de ne pas se lier par la bouche, on peut être lié d'une manière anormale. Rappelez-vous, en Juges 11:30, Jephté qui a fait vraiment un vœu idiot. Il a dit, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de chez moi, je te la mettrai en sacrifice, comme si Dieu demandait des sacrifices humains. Et c'est sa fille qui rentre, qui est la première. Il a été lié par sa parole, il était obligé de le faire. Aujourd'hui, les gens, ils font des vœux à deux, Dieu, et comme la parole n'a plus aucune importance, aux yeux des hommes, parce qu'il en a aux yeux de Satan et aux yeux de Dieu. La parole, nos paroles, moi je suis affolée quand je vois la légèreté des paroles des chrétiens, des engagements des chrétiens. Je dis, et vous voulez faire croire aux païens que notre Dieu est fidèle alors que vous, vous n'êtes pas fidèle à votre propre parole. Que votre parole soit oui, oui, non, non, tout le reste vient du malin. Amen. Donc ça c'est le truc douteux. Maintenant on va parler de liens qui ne sont eux alors là carrément d'origine diabolique. 1 Corinthiens 6, 16, on en a parlé. Celui qui fait corps tous les liens sexuels hors mariage crée des liens d'âme, des liens sexuels très lourds. J'ai parlé aussi des alliances avec les ruptures d'hymen qu'on a fait avec des vierges. Ce ne sont absolument pas des petits liens. Et c'est pas parce que le monde aujourd'hui nous renvoie l'image que tout ça c'est rigolo, que tout le monde peut faire n'importe quoi. Ce sont, sur le plan spirituel, ça entraîne des liens très lourds. Donc je voudrais le rappeler de ce côté-là. Hein. J'ai parlé cet après-midi des sirènes, hein, qui entraînent les hommes à leur perte, littéralement. Ça amène des esprits de mort, carrément. Bon. On peut dire que littéralement, quand on a eu des multipartenaires, notre âme est éparpillée chez les multipartenaires. Elle n'a fait qu'une seule chair avec eux. Une seule âme. Pas seulement le corps, il y a l'âme aussi. Alors notre âme est éparpillée. Alors, il vaut mieux aller ramasser les morceaux. Hein. Et il faut les libérer parce qu'eux aussi, malheureusement, on les a aussi liés à nous. Les gens sont liés à de multiples partenaires sexuels. Et après, comment voulez-vous que les mariages tiennent? Il y a eu des pactes qui ont été faits par les enfants en rigolant, les pactes de sang. Extrêmement mauvais. J'ai parlé des liens de sang dont je ne vais pas revenir, je vous donne simplement la référence, Luc 14, 26. Luc 14, 26. Quand Jésus dit, nul ne peut être mon disciple s'il ne hait son père, sa mère, son frère, sa soeur, etc. C'est vraiment, alors qu'il demande d'aimer son prochain comme soi-même, c'est vraiment faire attention à ces liens qui sont où le lien familial prime sur l'obéissance à Dieu. Et beaucoup de chrétiens se font piéger dans ces liens familiaux qui peuvent être très malsains. Les liens familiaux peuvent être... Moi, j'ai connu, je peux dire, j'ai connu une famille que tu as connue aussi, Yves. Mais c'était un bunker, la famille. C'était vraiment... Ils se surprotégeaient les uns les autres, même dans la justice la plus totale. Et c'était quelque chose... Alors, un bunker, ouais, que je vais dire. Il y a des moments où c'est pas du tout juste, croyez-moi. Il y a des liens quelquefois dans les familles qui sont épouvantables. C'est exactement comme chez les francs-maçons où ils jurent de se protéger mutuellement quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent, ils s'engagent, ils jurent de se protéger mutuellement. Et la seule cas où ils sont déliés, c'est si un de leurs frères, parce qu'ils s'appellent tous frères, a commis un assassinat. Autrement, les vols, les trucs. Ne vous étonnez pas que je suis entouré actuellement de gens qui n'arrivent pas à obtenir justice parce que les juges sont francs-maçons, les avocats sont francs-maçons et que leur adversaire, qui est quelquefois le mari, qui est incestueux, où il y a eu toutes les preuves, eh bien, il est franc-maçon aussi. Alors, il y a des injustices gigantesques. Rappelez-vous l'histoire du trou en Belgique. Croyez-moi qu'il y avait des histoires de franc-maçonnerie derrière. Tout le monde se cachait. Tout le monde se cachait, tout le monde protégeait tout le monde. Et bien, dans des familles aussi, on protège contre toute injustice et on va protéger la famille, quoi qu'il arrive, même d'une manière totalement inique. Ce n'est pas des liens justes, ça. Je voulais parler des fausses compassions. Ça, c'est souvent un piège qui arrive souvent dans le catholicisme, entre autres, mais qui peut nous arriver, ça m'est arrivé, où on est pris comme ça dans un truc, on croit que c'est de l'amour, alors que c'est pas de l'amour, et tout d'un coup on va pleurer avec quelqu'un qui est malade, puis on va dire, oh Seigneur, je veux prendre sa maladie sur moi. Crée un lien fusionnel, et on va se ramasser la maladie de l'autre, ce qui ne la guérit pas, mais on l'a aussi. C'est un blasphème, parce que Jésus seul pouvait porter nos maladies. Mais on se fait quelquefois piéger, un truc comme ça. Attention aux fausses compassions. Aux fausses compassions qui peuvent créer de vrais liens fusionnels bizarres. J'ai vu des liens qui devenaient carrément diaboliques, malheureusement, qui ne sont pas si rares que ça. Des personnes qui refusent, par exemple, le mari est mort, et refuse de le lâcher, et refuse de faire le deuil. Il y a une espèce de rébellion contre le fait qu'il est parti. Moi, j'ai vu des femmes qui disaient « Non, je ne veux pas qu'il soit mort, etc. » Et elles étaient un lien avec le mort, un lien d'âme. On peut avoir des liens d'âme avec des morts. Il y a des enfants qui sont nés après la mort d'un enfant dans la famille, et on lui demande en quelque sorte de jouer le rôle de l'autre. Et en fait, il y a un lien d'âme avec le mort qui est à couper. Parce que quelque part, on lui fait prendre l'identité de l'autre. On lui demande de remplacer l'autre. Un enfant n'est pas fait pour remplacer un autre. Quand je pense qu'aujourd'hui, dans les expériences, on va créer des clones, rien que pour on aura le droit de créer des clones, ça commence à se faire, simplement pour pouvoir avoir des organes tout frais. Non mais, Seigneur Jésus revient bientôt. Hein. Ça devient épouvantable. Bon. Alors, il y a aussi par rapport à quelqu'un qui est parti, un mari qui a divorcé. Moi j'ai vu des cas où les personnes refusaient. Je vais vous raconter une histoire comme ça, parce que ça illustre bien. Un jour vient chez moi une femme qui me dit, ouais, bah, elle était tourmentée, elle avait tas de problèmes, et elle me demande de prier pour sa délivrance. Puis en parlant un peu avec elle, j'apprends qu'elle avait été mariée pendant 10 ans avec un pasteur et elle refusait, il avait fini par divorcer. Et elle refusait, elle disait, la parole de Dieu me dit qu'il m'appartient, que ceci, que cela, il m'appartient. Et puis en parlant un petit peu, j'ai appris que tout simplement, elle et sa mère, qui avaient un lien fusionnel, persécutaient cet homme et jouissaient de le persécuter. Elle avait pendant 10 ans persécutée. Elle s'appelait matin, soir, croise 3 fois, 4 fois par jour. C'est-à-dire que normalement, une femme est unie avec son mari, son meilleur confident, ça doit être son mari. Et pour le mari, son meilleur confident, ça doit être sa femme quand même. Or là, c'était la mère, et elles étaient unies contre le mari. Et elles s'amusaient, c'était deux Jézabel, et elles persécutaient le mari. Et il a, ce pauvre malheureux qui était pasteur, il a fini par, il n'en pouvait plus, c'était une question de vie ou de mort, de toute façon il ne pouvait plus continuer à être pasteur. Il a renoncé à son pastorat, il a divorcé, il est parti, et quelques années après il s'est remarié, et il a eu des enfants. Et 10 ans plus tard, elle refusait toujours de le lâcher. Non, il m'appartient, et elle me demandait sa délivrance. Mais je lui disais, mais c'est, quelqu'un ne vous appartient pas. Un homme ne vous appartient pas, même si vous êtes marié avec lui. Vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaire de ses enfants. On n'est pas propriétaire d'un mari ou d'une épouse. On est là pour l'aimer. Mais l'aimer, ce n'est pas être propriétaire. Et elle ne refusait de lâcher. Et elle était tourmentée. Mais elle reconnaissait. Elle reconnaissait qu'elle l'avait. Mais littéralement, qu'elle s'était alliée avec sa mère, qu'il y avait un lien fusionnel avec sa mère. Et qu'à elle deux, elles vivaient l'une à travers l'autre, et qu'à elles deux, elles avaient passé leur temps à persécuter le mari. C'était de Jézabel, la haine de l'homme. Eh bien, quand j'ai vu que s'il n'y avait rien à faire, qu'elle ne voulait pas le lâcher, je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux rien faire tant que vous ne renoncez pas à lui, tant que vous ne le rendrez pas au Seigneur. Dieu vous l'avait donné, et en plus vous l'avez complètement massacré, vous lui avez volé son ministère, vous lui avez volé sa vie, et en plus vous le réclamez, vous allez le lâcher. Elle ne voulait pas. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 2 ans, cette femme, et elle m'a dit, Michel, il m'a fallu encore 10 ans pour que j'accepte de le faire. Bonjour la possessivité. Ça m'amène tout naturellement à la possessivité. La possessivité, c'est pas l'amour. Il y a des parents qui sont possessifs avec leurs enfants. La possessivité est le contraire de l'amour. Dieu n'est pas possessif avec nous. Il nous aime, mais il nous laisse libres. Bien sûr, il nous éduque, il peut nous punir comme des enfants. Il essaye de nous apprendre et de nous amener à la maturité. Mais après, on doit lâcher. Or, il y a des personnes qui ne veulent pas lâcher leurs enfants. Vous savez ce que c'est que la possessivité? C'est d'origine démoniaque. Il y a des possessivités qui sont terribles. Et quelquefois, la possessivité, mais ça je vais en parler dans les liens fusionnels, elle devient totalement réciproque. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas, ils appellent ça de l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est une possessivité, l'un vit à travers l'autre. Alors, il y a un lien normal, c'est celui entre un mari et une femme, il faut qu'une seule chair. Mais c'est aussi dans le respect, pas dans la possessivité, pas dans la domination. Parce que s'il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, nulle part vous verrez qu'il est demandé au mari de dominer sa femme. Y avait des hommes ici qui avaient déjà, qui s'étaient pas aperçus que c'était marqué nulle part, ça. Que la seule fois où c'est marqué dans la Bible, c'est considéré comme une malédiction. Et l'homme, ton mari dominera sur toi, à Ève. Quand la femme se soumet, c'est pour être protégée, aimée, comme Christ aime l'Église. Mama, comme ça, des maris comme ça, on en veut tous les jours. Et on se soumet à eux sans problème. Alléluia. Mais quand c'est, si la soumission consiste pour l'autre à dominer, ça c'est diabolique. La domination est diabolique. J'ai parlé de Jézabel. La domination, la manipulation d'un être sur un autre, c'est de la... Et genre, ça me fera parler des liens d'emprise tout à l'heure. C'est diabolique et c'est d'origine diabolique. Alors les liens fusionnels, on peut voir des choses absolument horribles. Croyez-moi, je dis bien horribles. Parce que les gens sont convaincus que c'est de l'amour, alors que je peux dire qu'ils se dévorent mutuellement. Qu'ils vivent, qu'il y a une fusion, et j'appellerais ça une confusion des personnalités, l'esprit de l'un est dans l'autre, et quand vous voulez couper les ponts, c'est un déchirement, parce que les gens ont l'impression qu'ils vont plus vivre, et tellement c'est entremêlé. Je me souviens d'un cas comme ça, d'un jeune homme qui avait 30 ans, qui était professeur, qui était intelligent, il m'appelle au secours, et il me dit, Michel, voilà, si vous ne me recevez pas chez vous, je vais mourir. Je ne pouvais pas le croire, mais à sa voix, j'ai vu que c'était vrai. Et quand il a débarqué à la maison, j'ai vu effectivement, c'était un squelette, le gars. Il y avait vraiment la mort sur lui. Alors, j'ai commencé à faire des trucs. J'ai très très vite vu qu'il y avait... Et il me dit, ma mère est chrétienne, elle s'est convertie, etc. On peut être chrétien et y avoir quand même ce genre de choses. Ils avaient un lien fusionnel absolument épouvantable entre eux. Je crois que j'ai déjà raconté l'histoire. Mais le gars, je lui dis maintenant, bon, vous avez pris un hôtel, vous allez rentrer. Oui, oui, mais d'ailleurs, ma mère est venue avec moi. Elle avait fait le voyage avec lui. Dans son église, qui était à Strasbourg, il y avait un Africain qui faisait de la délivrance, qui lui avait dit, ta mère est une sorcière. Elle a un esprit sorcier. Et elle te dévore complètement. Et ça l'avait tellement révolté qu'il l'avait refusé. Il n'avait jamais voulu l'entendre. Et moi, c'est après qu'il m'a raconté cette histoire. Moi, tout de suite, dès que j'ai commencé à prier pour lui, j'ai reçu esprit de la mère. J'ai commencé à chasser, je ne vous dis pas, les trucs, les hurlements, les machins, les vomissements, etc. Et puis, j'apprends le lendemain matin, parce qu'il revient le lendemain matin, que la mère était à l'hôtel avec lui, qui lui racontait tout. Ah. Alors, on faisait la délivrance, et il repartait raconter tout. à la maman et qui remettait son emprise immédiate sur lui. De nouveau, la fusion était rétablie. Et je lui dis, écoute, ça c'est pas possible. Il faut que tu te sépares de ta mère, parce que les liens sont tels qu'il faut que tu mettes de la distance. Il faut même que tu demandes à changer de ville. Alors il me dit, oh mais je sais, mais l'Africain m'avait déjà dit ça, alors j'ai déjà fait, maintenant ma mère n'habite plus dans mon appartement. Alors, vous savez, il y a toujours des excuses. Parce que quand il avait 10 ans, quand on parle de se lier par les paroles, quand il avait 10 ans, il avait, son père battait sa mère comme plâtre. Et l'enfant s'était juré. Souvent, le diable se sert de situations comme ça pour amener des trucs encore plus démoniaques derrière. L'enfant s'était juré, il avait juré à sa mère que dès qu'il serait en âge de pouvoir subvenir à ses besoins, il la prendrait chez elle. Jusqu'alors, ça paraît très méchant. Mais le problème, c'est qu'il s'est établi entre la mère et le fils un lien fusionnel complètement démoniaque. Alors c'était la mère qui lui servait d'épouse. Même s'il n'y avait aucun acte sexuel. Ça m'amènera tout à l'heure à parler des maris et femmes de nuit, d'accord? Donc, et il n'y a rien à faire. Quand il me raconte ça, j'ai dit, bon, bah, tu as quitté l'appartement. Oui, mais ça, justement, j'ai trouvé un appartement juste au-dessus du mien, alors ma mère a ma clé, elle vient faire mon repassage, mes repas, mes trucs, c'est exactement pareil, quoi. C'est-à-dire que le lien fusionnel, il ne faut pas y avoir. Ils étaient incapables en réalité de se séparer. Puis des mois ont passé. Alors entre temps il s'est passé un truc. Comme il habitait pas très loin de chez Nassou, je demande au gars d'être suivi par Nassou. Et le gars trouve rien de mieux que de donner mon email à sa mère ainsi que celui de Nassou. Alors elle a téléphoné à Nassou en menaçant de me faire mettre en taule. Elle était chrétienne, hein, soi-disant née de nouveau dans une église. Des mois ont passé, et puis un jour il m'appelle en disant, écoute Michel, je suis tombé sur une fille, je suis fiancé avec elle. Et là, j'ai vraiment compris. Parce que quand j'ai dit à ma mère que je voulais me fiancer avec elle, ma mère a dit, c'est elle ou c'est moi? Il a dit, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Et là, il avait pris la bonne décision. Quand même, toutes les prières qu'on avait faites n'avaient pas été totalement vaines. Et là, il a vraiment pris la décision d'une séparation totale. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais je pense qu'il s'est vraiment... Enfin, je l'espère. Je l'espère. Parce que c'est des liens. C'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque, ces liens fusionnels. Entre les mères et les filles. Je l'ai vu, femme de passeur... pour vous donner un exemple que je connais très bien, qui sont des amis qui n'habitent pas loin de chez moi, qui m'appellent un jour en disant, écoute Michel, je ne vais pas bien, je voudrais que tu pries pour moi. Et non, elle me parle, bon, j'avais déjà prié pour elle. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, il y a mon fils qui a 30 ans, qui vient à la maison depuis des années, et puis il ne va pas bien du tout, il est tombé dans un accès de démence. Est-ce que tu veux prier pour lui? Et ben, je dis oui, ben viens, venez, amenez-le moi. Et le pasteur en question et elle viennent, m'amènent le gars qui avait 30 ans, qui déraillait complètement. On commence à prier, on chasse effectivement des trucs très lourds. Et le gars littéralement retrouve ses esprits et part bien. Ayant retrouvé tous ses esprits 3 jours après. Le père m'appelle en disant, Michel, je viens d'être obligé d'amener ma femme en clinique psychiatrique. Il s'était bien gardé de me dire, entre les deux, qu'il y avait un lien fusionnel entre la mère et le fils. Complètement malsain. Et que leurs esprits étaient entremêlés, leurs âmes étaient entremêlées. Et donc, quand j'avais chassé, et dans des délivrances, quand il y a des liens fusionnels comme ça, quand je chassais l'esprit, il allait directement. Il était allé chez la mère, qui est restée quand même 6 mois à l'asile psychiatrique, qui a mis 1 an à s'en remettre. Et après, je les ai pris, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Il faut que vous coupiez ce lien. Il faut vraiment que vous vous sépariez physiquement Et c'est enfin fait aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas, quand il y a eu des liens fusionnels, il faut couper. Je vais vous donner un autre exemple que connaît cette fois-ci Laurence. Donc je vous ai parlé d'un pasteur ADD qui était venu chez moi. Il avait un lien fusionnel avec sa mère, bon, qu'il avait 40 ans, ça faisait des ans, il me dit qu'il voulait tuer sa femme. Je sors l'esprit de la mère, je sors l'esprit de la femme, je l'ai dit. Mais comment l'esprit fusionnel était arrivé avec la mère? Toute son enfant avait été un martyr. Sa mère le battait comme plâtre. Et quand j'étais en train de le délivrer, j'entendais la mère qui ricanait, je savais que c'était un esprit humain, disant, il ne peut pas me quitter. Pourquoi il ne peut pas vous quitter? Ah ben, de toute façon, je sais très bien que quand il revient toujours en mes jupes. Alors j'arrête et je demande au gars, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de jupe? Il dit, mais quand j'étais petit, le seul endroit où je pouvais être sûr que je n'étais pas battu, c'était quand j'étais dans les jupes de ma mère. Donc j'étais tout le temps dans ses jupes. Et je lui dis, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben on s'appelle 3 fois, 4 fois par jour. Je lui dis, mais enfin, vous avez une femme, vous avez 50 ans, vous ne croyez pas que ça suffit, non? Alors, mais c'est par amour pour elle. Je lui dis, arrêtez, que c'est que ça, 3 fois, 4 fois par jour, ça correspond strictement à rien. Je veux dire qu'on appelle sa mère quand tous ses rapports sont normaux, une fois par semaine, une fois par mois, pour voir si elle va bien, mais 3, 4 fois par jour de la part d'un homme de 50 ans. Alors que sa femme, il voulait la tuer, il y avait quelque chose qui était un peu désordre, surtout chez un pasteur. C'était quand même fou. Et en réalité, le lien fusionnel qui existait entre la mère et le fils était un lien sadomasochiste. Sadomasochiste. Alors ça va m'amener très tranquillement à ces histoires de mari de nuit, femme de nuit. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans les délivrances. Si on n'est pas au courant, on va laisser les gens dans des liens terribles. Ils n'arrivent pas que par les liens fusionnels, mais ils arrivent aussi par les liens fusionnels, par les liens d'âme et par les liens, mais ils arrivent aussi par sorcellerie, puisque les personnes peuvent être vendues par leur mère, par leur père, à des sorciers, à des marabouts, il y a des trocs qui se font absolument abominables, et il n'est pas du tout rare que les gens se retrouvent avec des femmes de nuit et des marins de nuit. Je vais expliquer ce que c'est. L'Église connaissait fort bien cela, autrefois, sous le nom d'incube et de succube. Incube et succube, vous trouvez ça dans le Larousse, hein. Donc, c'est même pas la peine de retenir ces noms, sauf si vous voulez chercher. Les Africains ont décidé de prendre un mot beaucoup plus simple à faire, femme de nuit, mari de nuit. Moi, j'ai adopté cette terminologie parce qu'elle a le mérite d'être claire. Ne vous inquiétez pas, quand on s'adresse à ces esprits, ils savent très très bien de quoi il s'agit. Ce sont des esprits qui sont des esprits humains accompagnés de démons. Alors, ça peut être des démons, ça peut être des esprits humains. Mais figurez-vous que dans le monde spirituel, il y a aussi une activité sexuelle, démoniaque, diabolique. On va dire jeunesse suisse. Déjà qu'on situe le fait que ce sont des choses qui existent, qui ont existé dès la chute. Verset 2. Les fils de Dieu, quel fils de Dieu? Étrange mot, hein. C'est comme dans Job. Les fils de Dieu qui entouraient Satan, qui viennent voir Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Bon, c'est des créatures de Dieu. On peut penser que ce sont des anges déchus. C'est l'interprétation qui est donnée généralement. Les fils de Dieu virent que les femmes, les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez tout ça aussi dans la mythologie grecque où les dieux viennent voir les femmes des hommes, leur font des tas de bébés bizarres. Bon. Je peux vous dire que ça existe aussi dans le monde démoniaque, croyez-moi. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, c'est à cause de ça que Dieu a décidé de retirer son esprit de l'homme. D'accord ? Verset 4. Légion a été sur la terre dans ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Là, il plane un mystère, parce qu'il y a bel et bien eu des géants qui s'appelaient des Néphilim, physiques, mais dans le monde démoniaque, il y a aussi des géants, on les voit, qui font 2,50 m, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Hein. Mais il y en a eu physiquement aussi. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais il y a ce que j'ai pu constater, et que d'autres personnes comme Lassou, comme Laurence, tous ceux qui font de la délivrance peuvent constater, c'est que des gens sont tourmentés par des esprits qui viennent la nuit, qui peuvent être très souvent des esprits humains qui s'emparent physiquement, sexuellement, des personnes, pas de n'importe qui. Des gens de leur famille, c'est un peu comme les histoires de rentrer dans les personnes, des gens de leur famille, par sorcellerie, les mères qui ont vendu leur fille à des marabouts, à des trucs pour soi-disant avoir des bénédictions, exactement comme on fait dans le catholicisme, là. On les consacre à Marie, ou on consacre l'enfant pour être curé, ou pour être moine, ou pour être bonne sœur, pensant que toute la famille va être bénie. C'est le même esprit. C'est le même esprit. On en sacrifie un pour que la famille, soi-disant, soit bénie. Et en réalité, c'est tout ça, c'est des abominations. D'accord ? À pas sacrifier quelqu'un de la famille pour que le reste de la famille soit béni. Le sacrifice de Jésus, il est parfait. Pas la peine d'aller sacrifier des enfants. D'accord ? C'est exactement comme Jephté, c'est pareil. Ce sont des stupidités, des abominations, sans nom. Allez, on va consacrer les bébés. Pour qu'ils soient... Moi, j'ai vu une femme en Canada, je me souviens, qui avait été consacrée devenir bonne sœur, pour que toute la famille soit bénie. Alors en plus, on était chez un dentiste, lui, il avait été consacré pour être curé. Parce qu'on pensait que toute la famille sera bénie. Moralité, il a été complètement ruiné. Ben oui, il faut un vœu de pauvreté. Donc on leur met une malédiction de pauvreté. Il avait été complètement pillé, dépouillé dans sa vie, parce que tout simplement, il avait été consacré pour devenir prêtre. Et les prêtres font un vœu de célibat et un vœu de pauvreté. Donc ils s'étaient ramassés les malédictions qui allaient avec. Hein. Et la femme, c'était pareil. Elle s'était retrouvée dans un couvent à l'âge de 16 ans. Et puis elle y était restée jusqu'à l'âge de 45 ans. Et quand elle était parmi nous, avant elle était sortie, elle a dit, j'ai été mise dans un tombeau pendant toutes ces années, et maintenant c'est trop tard, ma vie, elle est fichue. D'accord ? Alors donc, voilà les pactes de consécration qu'on fait. Mais lorsque les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans ces alliances qui se passent de nuit, alors on va parler de la manière dont ils rentrent aussi. Quand les gens vont coucher avec des sorciers ou avec des marabouts ou des sorcières ou des maraboutes, etc., ils font les gens font des manipulations après, comme nous l'a raconté notre sœur. Non, c'est notre sœur qui nous a raconté ça tout à l'heure. C'est Estelle nous a raconté ça. Et ils font des manipulations pour. Ah ben non, c'est Michel. Ils font des manipulations pour les tenir, pour les trucs, pour les piller et pour les mettre sous envoûtement, ça devient leur chose. Et personne n'arrive pas à se libérer. Il faut la puissance des frères qui viennent et qui brisent les liens au nom de Jésus pour y arriver. Et puis c'est pas si facile que ça. Et puis il faut sortir l'esprit de la personne. Et puis après, derrière, il faut briser, il faut brûler tout ce qu'ils ont à vous qui leur permettent d'établir des ponts et des liens. Bon. Et je t'ai pas posé la question si tu avais, mais peut-être que tu reconnaîtras, t'inquiète pas, il y en a beaucoup à qui ça arrive. Comment on va les reconnaître? Alors, il y a aussi ceux qui viennent, effectivement, en esprit. Ils viennent, ils ont des droits. Ils ont des droits par le sang, ils ont des droits par la sorcellerie, ils ont des droits parce qu'il y a eu la fornication, ça a été ouvert une voie royale, ils ont des droits divers. Et ils viennent visiter les gens la nuit. Alors, les résultats sont absolument terribles. Terribles. Parce que, en général, la personne n'arrive pas à se marier. Moi, j'ai je l'ai entendu à plusieurs reprises, quand je priais pour quelqu'un qui était sur le point de se marier, j'entendais un esprit qui se manifestait, c'était un mari de nuit, ou femme de nuit pour des hommes. Dans ce monde-là, l'homosexualité marche très bien aussi. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et j'entendais des voix, non, elle m'appartient, elle ne se mariera jamais. Exactement comme pour ce pasteur, parce que figurez-vous qu'il y a des liens, femme de nuit, mari de nuit, qui se font dans ces liens fusionnels, entre mère-fille, entre père-fille, entre tous ces trucs-là, les machins, même simplement les fantasmes d'inceste qui se font dans les familles. Bon, ça rentre aussi par les incestes, mais les fantasmes d'inceste aussi peuvent ouvrir des voies à ces choses. Alors, je vais en parler très simplement parce que les gens n'osent jamais en parler dans leurs églises. En général, ils ont la honte. Pourtant, ça détruit les vies, ça détruit les couples. C'est un cauchemar. Et c'est extrêmement fréquent sous toutes les latitudes. C'est une des choses les plus courantes qui soient, sur lesquelles on est à travailler dans la délivrance. Ça se manifeste par le fait que la nuit, d'abord, souvent, les gens ont des orgasmes spontanés, ou rêvent, qui font l'amour avec quelquefois ils voient les visages des gens, ont des trucs comme ça, au milieu de la nuit, qui se passent. Et le résultat, alors en général, quand ils sont mariés, dans un couple, celui qui a un mari de nuit ou une femme de nuit prend l'autre très rapidement en dégoût physique et va mettre le poids de la culpabilité sur l'autre. Non mais, il y a quelque chose en toi qui... Et l'autre souffre énormément de rejet. Il y a beaucoup de couples, on ne dit rien dans les églises. Allez, il faut que tout soit lisse. Mais en réalité, il y a des drames terribles avec des femmes qui sont rejetées par leur mari, des maris qui sont rejetés par leurs femmes. Et tout simplement, il y a un problème de délivrance de femme de nuit ou de mari de nuit. Et j'en profite pour dire que ceux qui rêvent, qui mangent la nuit, etc., c'est en général qu'ils sortent la nuit. Hein, que par sorcellerie, quelquefois les gens ne savent même pas. Ils ont des héritages sorciers et inconsciemment, la nuit, ils sortent. Mais en fait, d'autres sorciers viennent les chercher et les font participer à des cérémonies. Donc, ils se réveillent complètement épuisés tout le temps. Ceux qui ont des hommes, des femmes, mari de nuit, des femmes de nuit, se réveillent souvent complètement épuisés aussi. Ils ont passé des orgasmes la nuit, ils en ont des hontes. La plupart du temps, ils sont condamnés au célibat, à stérilité. Et quand on sort, les maris de nuit, les femmes de nuit, je vous assure que c'est d'une telle... Ils sont tellement entêtés, ce sont des esprits humains. Hein. C'est tellement entêté, c'est comme les esprits humains, pareil. Et puis en même temps, il faut sortir toute la progéniture. La progéniture. Ce sont des démons qu'ils créent. Ils font des démons. Mais oui, il y a des démons. Il y a des démons bébés, il y a des démons... Mais oui, il y a tout ça dans le monde démoniaque. Moi j'en ai appris beaucoup avec des anciens musulmans convertis qui voyaient dans le spirituel justement. Et là, moi quand j'étais petit, je jouais avec des bébés démons. Ils te croyaient normal. Moi j'ai joué avec un dragon. C'était mon copain. Alors dans toutes ces choses de liens fusionnels, liens d'âme, il peut y avoir ce genre de choses. Je voudrais parler des liens d'emprise aussi. Car là, on va aussi devoir sortir des esprits humains et quelquefois des marées de nuit et des femmes de nuit. Chaque fois que quelqu'un prend un ascendant sur vous, notamment un ascendant spirituel, et quelquefois à l'aide de la Bible. N'oubliez pas que Satan lui-même, il a dit à Jésus, il est écrit, pour le faire chuter. On peut se servir de la Bible pour prendre un ascendant spirituel, faire dire la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et malheureusement, beaucoup de gens ont été mis sous la domination. Je ne croyais pas que... Moi, j'ai énormément d'amis de pasteurs, je reconnais. Vous savez, les chrétiens des derniers temps ne sont pas toujours très drôles. Il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent et qui sont des pasteurs fantastiques. J'ai un pasteur formidable, je l'aime beaucoup. J'en ai même plusieurs. J'ai souvent chez les pasteurs. Je connais énormément de gens formidables. Mais il y a des gens qui ont été mis sous les coupes de pasteurs, qui leur ont mis des joues sur les épaules. Ce sont des pharisiens, en se servant de la parole de Dieu pour leur mettre des joues dessus. Et c'est ce que la parole appelle les Nicolaïtes, les pharisiens, nouvelle mouture pour l'Église. Ça veut dire qu'ils dominent le peuple. Ils mettent les gens sous des joues de domination, soi-disant qu'ils connaissent les Écritures, exactement comme les pharisiens l'avaient fait. Ils leur suppriment tout. Alors, mais bien sûr, les gourous, les imams, les marabouts, les trucs, tous ceux qui prennent un ascendant spirituel sur vous, ne parlons pas des gens qui vous hypnotisent, ne parlons pas des gens qui font des psychologues, qui vont pendant des mois vous dépiauter votre âme, qui peuvent prendre un ascendant terrible sur vous, et créer aussi, ça peut créer aussi des liens, des maris de nuit, des femmes de nuit, parce qu'ils prennent possession de tout votre être. De tout votre être, en fin de compte. Et quand on doit les sortir, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à sortir. Vampirisme, l'esprit vampire, c'est pas rare. Il y a des gens qui vampirisent les autres, littéralement, qui vampirisent les membres de leur famille. Moi, j'ai connu un pasteur qui vampirisait littéralement mon ministère. Et mon ministère est en train de mourir, le jour où je m'en suis aperçu. Il prenait tous mes dons pour s'en servir pour son propre ministère. Il me vampirisait. Et il a fallu que je sorte son esprit. Il a fallu sortir son esprit. Il m'avait mis un ascendant dessus, par séduction, tout en prétendant m'aimer. Le jour où je l'ai quitté, je me suis aperçu que son amour, c'était un peu particulier, son amour. Mais ce n'était pas du tout des histoires, il n'y avait aucune histoire de mari de nuit, etc. C'était véritablement vampirisation du ministère. Bon. Alors, donc tous les maîtres spirituels, les maîtres des arts martiaux, les maîtres de la franc-maçonnerie, tous ceux à quoi on s'est soumis, les anges, des gens qui ont parlé aux anges, qui ont pas, on n'a pas le droit de parler aux anges. Dieu peut envoyer des anges pour nous parler. On n'a pas le droit de parler aux anges. Ils n'obéissent qu'à la voix de Dieu, dit la parole. Ils n'obéissent qu'à la voix de Dieu. Dieu peut nous envoyer des anges pour nous parler. Ça, c'est autre chose. Alors, tous les esprits de Jézabel, on en a parlé cet après-midi, qui peuvent mettre la terreur, tous les gens qui ont ces esprits peuvent vous mettre un joug sur vous. Et il peut y avoir des dégâts physiques, hein, je veux dire arthrose, arthrite, des cancers, des ulcères, des trucs, etc. Parce qu'il y a littéralement écrasement. Donc, j'ai dit, les prêtres ou les Nicolaïtes, qui étaient pendant très longtemps, les prêtres ont exercé une domination totale sur la vie des gens, même leur vie familiale. Tandis qu'il y a des pasteurs aussi qui littéralement marient les gens presque de force. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Complètement fou, ils se mêlent de tout. Ils ne se mêlent pas de ce que Dieu leur a demandé de se mêler. C'est aimer les gens, c'est les soutenir, mais c'est leur laisser aussi, leur donner tous les moyens de faire les bons choix et d'être libre dans la vie pour faire les bons choix. C'est pas les diriger dans tout ce qu'ils doivent faire. Amen. Alors, bien sûr, dans les familles, les pères dominateurs, les mères dominatrices qui ont pu écrabouiller les gens, quelquefois il faut faire sortir les esprits, et j'ai dit, si en plus il y a eu des liens un petit peu incestueux, fusionnels, ça va être carrément aussi, en plus, le côté mari de nuit, femme de nuit, qu'il va falloir sortir. Donc, toutes ces choses demandent des délivrances, et il y a des délivrances absolument impressionnantes. Mais je voudrais dire ici, parce que je le dis notamment à une sœur ici, que si il n'y a pas une volonté déterminée à couper le lien, quand il y a un lien fusionnel, et je ne parle pas simplement de dire je renonce ou j'adhère, ça veut dire que ça doit être suivi d'actes. Quelquefois, il faut carrément changer de ville quand on est trop fragile. Il faut couper les ponts. C'est simplement qu'on est très fragile et c'est quelquefois le moyen de sauver les deux. D'accord ? Jésus a coupé les ponts avec sa propre famille. Quelquefois, il y a des moments où il faut couper les ponts pour mieux sauver les gens. Mais quand on est trop fragile, quand on sait qu'on est sous l'emprise de quelqu'un, il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. Il faut partir, il faut couper les ponts. On va s'arrêter là. Ça va permettre de faire un temps de ministère, peut-être de moi qui suis un petit peu épuisée, de se coucher un petit peu plus tôt. On se sent senti concerné par une de ces choses.
Bien sûr.
Levez la main simplement.